Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny. En ce 1er mai, fête de Saint-Joseph Travailleur, un tweet du pape François s'adresse aux responsables politiques. Nous parlerons ensuite d'une conférence sur la justice économique et sociale qui s'est déroulée au Vatican. Quelques jours après sa canonisation, nous parlerons aussi de Jean-Paul II et de sa confrontation au communisme. Notre invitée sera l'historienne Claire Tran, maître de conférence à l'université Paris Diderot, qui a travaillé sur la comparaison des politiques religieuses de la Pologne communiste et du Vietnam. À 3 semaines d'élections européennes qui pourraient voir triompher des partis hostiles à la construction de l'Union européenne, nous parlerons du 10e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne à 10 nouveaux États, avec un message du cardinal Rainer Marx, archevêque de Munich et président de la Comessé. Et puis à notre invité dans ce magazine, le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qui est en Algérie, envoyé spécial du pape François aux célébrations organisées pour le centenaire de l'élévation de la basilique de Saint-Augustin. Je demande à tous ceux qui ont une responsabilité politique de ne pas oublier deux choses, la dignité humaine et le bien commun. Voilà le message bref mais incisif du pape François sur son compte Twitter ce jeudi 1er mai, en la fête de Saint-Joseph Travailleur. Il y a un an, le 1er mai 2013, le pape François avait appelé les hommes politiques à tout faire pour relancer le marché du travail et créer des emplois. Le Saint-Père avait souligné que le travail est essentiel pour la dignité et que le chômage est le résultat d'une vision économique fondée sur le profit égoïste, en dehors des règles de justice sociale. Il avait demandé aux frères et sœurs dans la foi et à tous les hommes et femmes de bonne volonté de prendre une ferme décision contre la traite des personnes condamnées à un travail avilissant qui rend esclaves. Le travail donc au cœur des préoccupations du Vatican et du message du pape François. À la veille de la Saint-Joseph, le Conseil pontifical Justice et Paix a organisé une conférence pour renforcer sa collaboration avec les ONG catholiques et l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Une rencontre qui s'inscrit dans le contexte des objectifs du millénaire post-2015. Les objectifs en fin de course, le cardinal Peter Turkson, le président du dicaster, les a rappelés mardi matin, à savoir la justice pour tous, la justice économique et sociale. Antonino Gallofaro a rencontré l'un des organisateurs de la conférence, le père Pierre Martino Lagarde, conseiller spécial auprès de l'OIT. Nous l'écoutons.
Il y a d'un côté la fragmentation des contrats, la fragilisation des contrats, et puis de l'autre côté, vous avez une tendance aussi à diminuer le nombre d'heures des contrats. Donc ça fait des gens qui ne sont pas chômeurs. Ils travaillent 25 ou 30 heures. Il suffit d'avoir un seul client et que le client soit en difficulté pour qu'une entreprise de sous-traitant soit en difficulté. On peut être très sensible quand on est chef d'une petite et moyenne entreprise à des crises de trésorerie. Vous pouvez avoir un bon bilan, mais vous avez un moment où il y a un passage, il n'y a rien dans la caisse. Et bien s'il n'y a rien dans la caisse, il n'y a rien dans la caisse. Donc si vous n'avez pas de facilité bancaire, si vous n'avez pas d'aide comme ça, ça ne passe pas non plus. Et puis, je pense que tout ça doit se régler par la concertation, ce qu'on appelle le dialogue social. Le dialogue social, c'est les employeurs, les organisations de travailleurs, donc les syndicats, et les gouvernements. Donc, d'un côté, des politiques d'emploi public, soutien à l'emploi, de l'autre, un soutien aux entreprises et un dialogue social qui permet à tout ce monde-là de travailler ensemble. Dans ce contexte-là, veillons à regarder comment ne pas entrer dans une spirale qui augmenterait les inégalités. Une population qui est moins inégalitaire, c'est aussi une population qui vit mieux, c'est une population qui a une espérance de vie plus longue, etc. Donc tout va ensemble.
Quel rôle a l'Église, quel rôle ont les catholiques plus précisément? Est-ce qu'il y a une particularité de l'Église et des catholiques?
Je crois qu'il y a la reconnaissance très forte, mais elle est à plusieurs niveaux. La première, c'est une question de valeur. On ne fait pas du droit international, on ne fait pas le projet de développement si on n'a pas un axe et un ancrage sur des valeurs. La valeur de dignité. Dignité, c'est croire que des hommes et des femmes, dans les situations où ils sont, si on leur donne les droits et les moyens d'agir, ils ont les ressources pour être eux-mêmes les acteurs de leur propre histoire et donc de leur propre travail. Voilà, premier point, dignité. Solidarité. Et solidarité, on sait très bien qu'on peut être solidaire dans le malheur. Est-ce qu'on peut construire des liens forts, sud-sud, nord-sud, tout ce qu'on peut imaginer, pour faire face aux situations, trouver des idées, développer des connexions, développer des réseaux de recherche. Je pense qu'on a les ressources, on a les capacités. L'institution catholique, sans faire de cocorico, est une institution globale.
Le but ultime, c'est la justice économique, sociale, environnementale pour tout le monde.
Oui, et je pense parce que c'est notre avenir. Obéité, il y a cette expression qui était née après, en 1919, après la Première Guerre mondiale, qu'il ne peut pas y avoir de paix durable sans justice sociale.
Des millions de personnes sont descendues donc dans la rue ce jeudi à travers le monde pour la fête du travail, dans un contexte parfois tendu. Ainsi, en Italie, on a manifesté à l'appel des syndicats contre le chômage et l'austérité. Dans une homélie, l'archevêque de Bologne a déclaré ce jeudi qu'une société en harmonie avec la dignité de la personne cessait littéralement lorsque les valeurs de reconnaissance entre production et consommation s'inversaient. Autrement dit, lorsque l'on ne produit plus pour la consommation, mais que l'on consomme pour produire. Le cardinal Carlo Caffara a encore souligné que le rapport entre la personne, sa dignité et le travail était l'une des colonnes portantes de notre civilisation et que si cela se rompait, nous construisions une société tout simplement inhumaine. Et alors qu'en ce 1er mai, quelques 100 000 personnes étaient sur la place Rouge à Moscou pour une journée très patriotique, comment ne pas parler quelques jours après sa canonisation de Jean-Paul II, mais aussi de sa confrontation avec le monde communiste qui restera comme l'un des marqueurs forts de son pontificat. Ses années de sacerdoce et d'épiscopat en Pologne lui avaient permis d'acquérir une fine compréhension des faiblesses idéologiques du communisme et de donner à l'Église les outils pour accompagner sans rupture violente les changements survenus en Europe de l'Est à la fin des années 80. Si la dislocation de la Yougoslavie s'est faite dans la douleur, la Tchécoslovaquie, la Pologne ou encore les États baltes ont pu vivre une transition relativement pacifique, en grande partie grâce à l'attitude miséricordieuse de l'Église qui a su encourager l'émancipation de la société civile sans pour autant humilier les dirigeants sortants, voire en les associant au processus de démocratisation. Loin de l'Europe, ces bouleversements ont été suivis avec attention dans les autres régimes communistes, de Cuba jusqu'à la Chine, et au Vietnam, après une décennie de persécution, le Parti communiste s'est engagé en 89 dans une politique d'ouverture relative, reconnaissant à l'Église une légitimité comme porte-parole des aspirations de la société civile. L'expérience polonaise a encouragé les catholiques du Vietnam à s'affirmer sur la scène publique. La minorité catholique a ainsi acquis une visibilité sociale étonnante qui certes ne se fait pas sans tension. L'historienne Claire Tran, maître de conférence à l'Université Paris Diderot, a travaillé sur la comparaison des politiques religieuses de la Pologne communiste et du Vietnam. Elle nous explique comment les Vietnamiens, dès l'indépendance du pays en 1954, ont été attentifs à la situation polonaise.
Il y a eu des liens entre la Pologne et le Vietnam, puisqu'en 1954, quand le Vietnam a été divisé en deux, les communistes vietnamiens ont fait appel aux Polonais pour demander conseil pour éviter que tous les catholiques ne s'en aillent dans le sud. Donc ils ont fait venir des délégations de prêtres polonais. Alors c'était des prêtres de Pax, c'est-à-dire une organisation qui travaillait avec les communistes. Mais donc ils ont essayé de régler la question des catholiques en demandant aux Polonais, puisque les soviétiques n'ont pas estimé qu'ils pouvaient les aider à résoudre ce problème. Donc on peut dire qu'il y a eu des liens entre la Pologne et le Vietnam pour essayer de résoudre cette question de la gestion des catholiques dans un régime communiste. Donc il y a eu quelques échanges, on voulait envoyer des prêtres vietnamiens et les former en Pologne, mais on a vu quand même, puisque c'est en 1956 qu'il y avait des manifestations en Pologne, etc., et ils ont eu peur, et donc finalement cette collaboration s'est arrêtée. L'idée des communistes était de convaincre les catholiques de ne pas quitter le Nord-Vietnam, et ils ont complètement échoué, les Polonais ne pouvant pas vraiment convaincre les catholiques vietnamiens. En revanche, les Polonais ont aussi été un peu à la rédaction de la Constitution concernant les questions religieuses, et il y avait la question de la garantie de la liberté religieuse, il y a eu une petite empreinte polonaise, mais c'est vrai que même dans la Constitution soviétique, il y avait une reconnaissance de la liberté religieuse, tout à fait théorique, qui n'était pas effective.
Après 1975, une fois tout le pays passé sous la domination des communistes, quelle a été l'attitude de l'Église catholique ?
Il y a eu des catholiques parmi tous les Vietnamiens qui ont quitté le Sud-Vietnam, mais beaucoup sont restés. Et il faut notamment souligner le rôle de Mgr Binh, Nguyen Van Binh, qui était l'archevêque de Saigon, et qui, très tôt, bien avant l'arrivée des communistes en 1975, a considéré que les catholiques ne devaient pas partir du pays, mais qu'ils devaient rester pour construire le pays après la guerre, puisque pendant toute la période de la guerre, vous avez eu donc des appels de l'Église pour la paix, pour la négociation. négociations aussi. Hein. Paul VI a fait appel pour que la guerre du Vietnam s'arrête. Et donc, Mgr Binh a vraiment insisté pour que les catholiques restent, que les prêtres restent, pour reconstruire le Vietnam, même dans un régime communiste. Il y a eu une période très dure pour l'Église catholique. Les séminaires ont été fermés. La pratique religieuse a été extrêmement difficile. Il y a eu des évêques qui ont été emprisonnés, comme Mgr Thuan à Nha Trang. Et l'évêque de Hue, Mgr Dien, a été aussi emprisonné. Donc il y a eu une période difficile. Et à partir de l'ouverture du pays en 1986, le choix de la politique du Doi Mui, la nouvelle voie, là, ça a commencé à changer.
Comment les Vietnamiens ont-ils réagi face aux événements survenus en Europe de l'Est dans les années 80, sous l'impulsion de Jean-Paul II ? En étaient-ils informés ?
Pour les catholiques vietnamiens, l'intérêt pour la transformation en Pologne a été réel. Bien sûr, le régime a eu aussi peur du rôle des églises dans la chute du mur en Europe centrale. Donc ça, c'est vrai qu'en 89, il y a eu une très forte inquiétude du parti, notamment aussi parce qu'en 89, il y a eu la canonisation de martyrs. Il y a eu des problèmes entre le Vatican et le Vietnam parce que parmi les canonisés, il y en avait certains que les communistes considéraient comme des collaborateurs des Français. Hein. Donc il y a eu des tensions en 89. Mais en réalité, le Vietnam avait tellement besoin d'ouverture et de réintégrer l'économie internationale après une trentaine d'années de guerre et une dizaine d'années de blocus à cause de l'occupation du Cambodge que le Vietnam a été obligé de s'ouvrir. À partir de 89, Mgr Etchegaray est venu au Vietnam. Eh bien, on a eu des relations ininterrompues entre le gouvernement vietnamien et le Saint-Siège. C'était quand même un pays extrêmement fermé. Et c'est seulement donc après, dans les années 90, que les catholiques ont pu rentrer en contact plus largement avec les catholiques d'Occident et du reste du monde. L'ouverture, elle date vraiment des années 90-2000.
Aujourd'hui, dans un Vietnam toujours officiellement communiste, quelle est la position de l'Église ? Comment s'exprime-t-elle ? Est-elle libre d'agir comme elle l'entend ?
L'Église catholique vietnamienne a réussi vraiment à être un interlocuteur avec le régime qui discute. Alors, ils peuvent ne pas être d'accord, mais c'est une force réelle. Les évêques osent de plus en plus donner leur point de vue sur des questions même politiques, hein, sur la question, notamment il y a eu tout récemment la question de la nouvelle constitution du Vietnam et la conférence épiscopale vietnamienne a demandé une plus grande démocratie. L'Église catholique a son mot à dire dans la société civile vietnamienne. C'est une religion effectivement très, très organisée avec une hiérarchie. Hein. Il y a un grand nombre de religieux au Vietnam, mais qui n'ont pas une telle organisation interne et qui aussi un tel réseau international par ses liens avec l'Église catholique universelle.
C'est un anniversaire qui passerait presque inaperçu à 3 semaines d'élections européennes qui pourraient voir triompher des partis hostiles à la construction de l'Union européenne. Mais voici déjà 10 ans que l'Union européenne s'est élargie à 10 nouveaux États. L'Union européenne accueille en son sein le 1er mai 2004 8 pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne, les États baltes, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, auxquels s'ajoutait un État issu de l'ex-Yougoslavie, la Slovénie, et 2 petits États du sud de l'Europe, Malte et Chypre. À l'occasion de cet anniversaire, le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich et président de la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, appelle à la poursuite du chantier de la réunification de l'Europe. Cyprien Viette.
10 ans après l'élargissement à l'Est de l'Union européenne, nous devons continuer à travailler et rapprocher les différentes parties de l'Europe. La déclaration du cardinal Marx remet le rêve européen au cœur d'une actualité doublement morose, alors que les élections européennes qui s'approchent ne passionnent visiblement ni les peuples de l'Est ni ceux de l'Ouest, et que la crise en Ukraine ramène l'Europe dans un climat de guerre froide que tout le monde croyait avoir surmonté depuis 25 ans. L'élargissement à l'Est de l'Union européenne avait pourtant suscité confiance et enthousiasme en 2004. En cette année 2014, qui marque aussi le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le cardinal Marx rappelle que les bouleversements de 1989 et l'élargissement de l'Union européenne en 2004 ont parachevé l'histoire du XXe siècle, marquée par les conséquences des deux guerres mondiales. L'Europe devait se reformer après des décennies de divisions. Cet élargissement n'était donc pas seulement une mesure technique ou administrative, mais un moment d'espérance pour l'Europe et pour les pays de l'Est qui ont dû se battre pour gagner leur liberté de devenir membres de la communauté politique des peuples européens. Pour le cardinal Marx, la réconciliation et la réunification sont la raison d'être et le moteur historique principal de l'intégration européenne. Il y voit aussi un enjeu œcuménique. Les églises de toute confession en Europe se trouvent devant l'obligation particulière de contribuer à la communauté des peuples, rappelle-t-il. Et la canonisation récente de Jean-Paul II, le grand pape polonais qui avait tant œuvré pour le rapprochement entre le poumon occidental et le poumon oriental de l'Europe, doit aider les Européens à reprendre confiance en la construction d'une Europe unie et réconciliée.
Autre invité de ce magazine, je vous le disais dans le sommaire, le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qui est en Algérie. Il participera ce vendredi, en tant qu'envoyé spécial du pape François, aux célébrations organisées pour le centenaire de l'élévation de la basilique de Saint-Augustin à Annaba. La basilique a rouvert ses portes en octobre dernier, après des travaux de restauration qui ont duré plus de 2 ans et demi, travaux auxquels l'État algérien a participé, tout comme le Saint-Siège. Le cardinal Torrent présidera une messe solennelle, mais également une conférence sur le dialogue interreligieux. Le cardinal Torrent nous explique dans ce magazine le sens de sa présence en Algérie pour ce centenaire et ce que représente la basilique dans un pays à majorité musulmane.
Ce qui est frappant, c'est la maturité d'un peuple qui est capable d'assumer son histoire. Les chrétiens étaient avant les musulmans sur le terrain, et ils assument leur histoire en promouvant ce dialogue interreligieux qui est le dialogue de la vie en réalité. Et c'est un signe de maturité quand on est capable d'assumer son histoire, même si ça ne va pas souvent dans le sens de la majorité.
La situation des chrétiens en Algérie n'est pas facile, n'a pas toujours été facile. Ces célébrations sont un signe d'espérance?
Oui, mais je crois qu'il faut se rendre compte que dans un pays comme l'Algérie, la mission de l'Église, c'est d'être présente. La seule présence est déjà quelque chose. Nous n'avons pas de projet de grandes œuvres, de hôpitaux. Non, ce sont des petites communautés qui témoignent, là où elles vivent, de la foi chrétienne, et qui sont très appréciées. En particulier, je sais que les bibliothèques dans les quartiers qui sont tenues par des religieuses libanaises que j'ai connues autrefois sont très appréciées par toute la population.
C'est la première fois que vous vous rendez en Algérie. Comment pourrait-on aujourd'hui définir les relations entre le Saint-Siège et l'État algérien, entre l'Église et l'État ?
Alors, effectivement, c'est la première fois que je suis invité en Algérie. Maintenant, les relations avec les États, ce n'est pas de ma compétence, mais je crois que ce sont des relations empreintes de respect. Mais l'ambassadeur ne réside pas à Rome, donc je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer souvent.
Que représente aujourd'hui la figure de Saint-Augustin pour le pays, pour le peuple algérien ?
Ah bien, je crois que c'est très important parce que c'est un Africain qui a vécu en Europe et qui a, par sa vive intelligence, sa mystique aussi, qui a montré qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la raison. Et ça, c'est un thème qui est très cher aux Européens. Quand on lit quelques pages de cet homme, on s'aperçoit que c'est un génie vraiment. Il y a très peu d'hommes cultivés de cette taille.
Le Vatican a participé au financement de la restauration, Benoît XVI également à titre personnel. Vous êtes donc l'envoyé spécial du pape sur place. Que témoigne donc cette attention et cette présence ?
Bien, je crois que ça témoigne d'abord de l'intérêt de ce pape, le pape François, qui est encore nouveau, on peut dire entre guillemets, envers l'islam, l'importance qu'il ajoute au dialogue interreligieux. On en a parlé après la bénédiction Urbi et Orbi l'autre jour. Donc ma visite témoigne de ce désir de développer des relations plus intenses. Et aussi, je crois que c'est une manière de rappeler à la société, aux sociétés, que l'avenir, c'est un avenir partagé.
Vous êtes porteur d'un message du pape François. Quel est-il, ce message ?
Alors, c'est un message qui d'abord se réjouit des bonnes relations qu'il y a entre les chrétiens et les musulmans en Algérie, de la collaboration des autorités civiles, en particulier pour la restauration de l'église d'Annaba. Et puis, il salue aussi les pasteurs, les prêtres, les religieux et les laïcs, qui sont très importants, les laïcs, qui portent un véritable témoignage à l'unité spirituelle de l'Église dans ce pays. Et il y a des paroles de remerciement et d'estime envers les musulmans.
Qu'attendez-vous de cette visite en Algérie ?
J'attends surtout que tout le monde soit persuadé que le dialogue interreligieux est une question de survie de la société. On ne peut pas vivre les uns contre les autres. On va vivre les uns avec les autres et construire ensemble un monde meilleur.
Et à noter que le cardinal Torrent a déjà rencontré depuis mardi le ministre algérien des Affaires religieuses ainsi que le ministre des Affaires étrangères, mais aussi le président du Sénat. Samedi, avant son départ, il rencontrera encore des chercheurs en études comparées des religions à l'université islamique d'Alger. Ainsi prend fin ce magazine. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.